Le SIEC, le salon du retail et de l'immobilier commercial, sur la thématique « Continuons d'écrire l'avenir du commerce ensemble » les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo.
Et bonjour, si vous nous rejoignez en direct du SIEC, le salon de l'immobilier commercial et du retail au parc des expositions de la Porte de Versailles, au pavillon 4 où l'on vous accueille jusqu'à ce soir pour faire vivre le retail et l'immobilier de commerce. Jusqu'à ce soir, je le disais, avec des acteurs qui se poursuivent à notre micro. On a été faire tout à l'heure un petit tour du côté de Cap 3000 où l'on a vu pas mal d'enseignes. Eh bien, on va écouter la voix des enseignes maintenant, puisque je suis ravie d'accueillir Emmanuel Leroc, le délégué général de Procos. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes en forme ?
En grande forme, oui, oui, tout à fait.
Comment sont portés les derniers mois pour les enseignes ? Ça n'a pas dû être toujours évident et en même temps j'ai l'impression que ça y est, la reprise est bien là.
Écoutez, oui, ça s'est amélioré au fil du temps. Enfin, comme vous le savez, ça fait le premier confinement, c'est déjà très vieux et on a beaucoup stressé, les enseignes ont beaucoup stressé pendant ce premier confinement parce qu'on était face à l'incertitude totale et l'inconnu. Et ce qui a rassuré tout le monde, c'est de voir les consommateurs revenir très vite dans les magasins ouverts. Donc ça a levé une inconnue. Parce que après, on est refermé en novembre et encore en début d'année 2021. Ce qui est toujours stressant, parce que ne pas faire des chiffres d'affaires, c'est très stressant. Mais au moins, il n'y avait pas cette inquiétude de dire on va être à moins 40% pendant 6 mois, ce qui était un peu la manière de voir au début. Donc tout le monde, enfin c'est pour ça d'ailleurs, je vous disais je vais bien parce que je suis content d'être là et de voir des gens qui ont le sourire. Et c'est vrai qu'on s'était peu vu, sauf en visio, et que on voit bien quand même que à part l'équipement de la personne, en fait aujourd'hui c'est notre vie qui a un peu changé, en partie ponctuellement et en partie peut-être durablement. Et ponctuellement, on a moins de vie sociale, alors on vient pas au salon souvent, etc. Donc ça veut dire qu'on dépense moins dans les habillements, on sort moins, donc on achète moins de cosmétiques, de parfumerie. Donc c'est tout ce qui est autour de l'équipement de la personne qui est encore en difficulté. Vous le savez, un peu la restauration aussi, parce qu'il y a quand même toujours une problématique notamment liée au télétravail, et notamment dans les grandes métropoles et à Paris, où forcément il n'y a pas un retour au flux d'avant Covid, et je pense que peut-être qu'ils ne reviendront pas totalement sur ces parties-là. Donc des inquiétudes de cette nature qui vont nous obliger à nous poser d'autres questions pour l'avenir, mais à l'inverse des secteurs comme l'équipement de la maison qui va très bien parce qu'on a tous passé du temps dans nos logements et on s'est rendu compte de l'affreuxité de la couleur de la peinture.
On a tous fait des gâteaux.
Tous fait des gâteaux, tous fait de le jardin, etc. En tout cas pour ceux qui ont la chance de le faire ou des pots de fleurs. Et donc du coup ces secteurs-là, le sport, etc. vont très bien. Bon après tout ça a accéléré beaucoup de choses. Fait qu'il y a beaucoup de questions en suspens et en cours. On va dire, pour résumer, côté enseigne, en tout cas, deux transformations majeures qui se sont accélérées et qui réclament beaucoup d'investissement et d'énergie. Une transformation omnicanale qui était déjà commencée, et donc avec beaucoup d'investissements obligatoires dans le digital, dans la logistique, etc., dans l'adaptation des magasins. Et puis une transformation responsable qui, elle, pour le coup, s'est vraiment accélérée à plusieurs titres. Liés à la dépendance des approvisionnements lointains et qui reste un sujet de préoccupation pour la fin de l'année parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement, de transport maritime extrêmement fort. Donc ça c'est une inquiétude quand même, on va dire des 6 mois à 1 an qui viennent. Et puis des sujets vraiment de conception différente de l'offre, et donc ça veut dire éco-concevoir, réfléchir autrement sur les déchets, etc. Donc c'est passionnant, pas facile d'en faire un modèle économique, pas pour tout le monde en tout cas. Et puis d'autres, il ne faut pas avoir de vision réductrice, c'est-à-dire que l'omnicanal s'est beaucoup développé, c'est certain. Le e-commerce n'a pas tué le commerce physique, loin de là, et tant mieux, ça nous a permis d'être rassurés aussi là-dessus, même si ça s'est développé et que tout le monde nous renfère. Et puis il y a des modèles qui se moquent un peu du digital, comme le discount, qui répondent à des problématiques de consommateurs, parce que le consommateur, il est multiple aussi, qu'il y a des sujets de pouvoir d'achat qui sont pas les mêmes pour tout le monde, et qu'il faut avoir toujours cette appréciation de la multiplicité de nos citoyens, parce qu'en fait les consommateurs, le commerce ça répond aux citoyens, c'est pas juste faire du commerce, même si parfois, et là je vais faire un petit tacle, mais parfois on fait sur la base de la technologie, par exemple ce qu'on appelle les dark stores, c'est-à-dire livrer en 10 minutes des gens qui n'ont pas besoin d'être livrés en 10 minutes, quoi.
Ça, c'est aussi une des problématiques, tout ce qui concerne de toute façon la logistique, la livraison, les repenser. Vous parliez de durabilité, ça va être l'un des enjeux. Aujourd'hui, les consommateurs sont sensibles à ça. La livraison fait partie de l'expérience client et certains refusent quand même d'acheter chez des géants qui livrent et qui font circuler des camions pour un carton.
Je pense qu'il y a une grande diversité du citoyen, c'est-à-dire que nous tous, je pense que la conscience et la responsabilité sur l'économie des ressources de la planète a progressé chez tout le monde. Maintenant, ça se transforme pas en acte chez tout le monde, loin de là. Certains n'en ont pas les moyens, hein, enfin, je pense qu'il faut être honnête. Et puis d'autres, sans doute le cerveau, je dirais, un peu déconnecté de ce qu'ils font sur leur smartphone quand ils sont dans leur canapé. Et du coup, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un discours responsable très fort, y compris dans les grandes métropoles comme Paris, puis un comportement un peu différent. Parce que, d'une part, il y a la praticité. On est quand même dans une société qui pousse à la fainéantise. Hein. Se déplacer, c'est un effort.
Et
etc.
On a l'habitude de tout avoir immédiatement.
Tout est facile, immédiat. Et du coup, on a créé des repères aussi de temps qui sont extrêmement courts, etc. Même si on n'en a pas besoin, en fait. Du coup, on n'a même pas le recul par rapport à ça. Mais il y a des ce qui était hier un sujet de militant, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on dépense, faire attention aux déchets, et sans doute devient petit à petit un comportement plus large, même si c'est qu'une partie de la population. Après, on voit qu'une partie des consommateurs aimeraient faire mieux, mais considèrent que ils n'ont pas l'offre pour faire mieux, donc voilà, ou ils n'ont pas les moyens parce que ça réclame de payer plus cher. Et puis il y a quelque chose probablement qui n'est pas du tout perçu, je pense. Hein. Vous parlez de la livraison, je pense qu'aujourd'hui la livraison n'est pas perçue comme négative pour beaucoup de consommateurs, et donc ils pensent avant tout à leurs problèmes personnels. Et ils se disent pas, ouais, mais ça, c'est idiot d'avoir une livraison pour juste un produit qui a une valeur unitaire extrêmement faible. Et ils se disent pas, je ferai ma livraison quand j'aurai au moins un minimum de panier moyen d'achat. Donc il va y avoir une question pour moi sociétale autour de la livraison. Je ne vois pas comment. Parce que c'est une question sociétale et économique. C'est-à-dire que économique, parce que c'est extrêmement compliqué de livrer de manière rentable. Donc ça, c'est un sujet quand même de fond.
Compris dans les grandes villes.
Y compris dans les grandes villes lorsque la livraison est gratuite, parce que en fait c'est ça, c'est-à-dire que pour donner des repères, Amazon avec Amazon Prime a quand même donné un repère quasiment de livraison gratuite, puisque vous payez un abonnement un an et après peu importe la durée, le nombre de livraisons, donc du coup vu du consommateur c'est gratuit, et quand on fait des choses gratuites, bon, y a pas de raison de s'en priver, quoi, hein, donc je pense qu'il y a un sujet de repère sur l'impact financier et environnemental de nos comportements qu'on va devoir donner au fil du temps pour qu'on soit un peu plus responsabilisé. Moi, je ne suis pas du tout pour une logique coercitive et de montrer du doigt, pas du tout. Mais par contre, d'augmenter le niveau de conscience si on veut un peu qu'on se dise... je vais prendre un exemple. On ne peut pas à la fois... Parce que quand vous interrogez la même personne... Elle va vous répondre que évidemment elle est très attachée à ses commerces de proximité, à son commerce de centre-ville, etc. Évidemment, il n'y a personne ne répond le contraire, d'abord parce que faut l'assumer, de dire j'en ai rien à faire. Donc les gens me disent oh ouais, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et puis en réalité, la même personne, le soir ou dans le train, elle commande sur Internet. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon comportement. Je pense qu'on n'est pas là pour faire de la pour moraliser, mais on est là quand même pour essayer de faire en sorte au fil du temps. On essaie de partager une vision commune sur ce qu'est une société demain et de faire en sorte que le commerce en fasse partie et que les choses qui sont pas bonnes pour la planète, on arrive à les corriger au mieux ou en tout cas à les limiter le plus souvent. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle histoire de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il sera plus facile de faire face et de relever tous ces enjeux en étant une grosse enseigne, un gros groupe que pour les petites ?
Non, je pense que c'est des problèmes différents. Alors, c'est très compliqué, de toute façon, quand même, pour le petit commerçant indépendant isolé. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, il faut aussi pas non plus raconter d'histoire. C'est-à-dire que tous les modèles de commerce ne se sauveront pas parce qu'ils font de la livraison à domicile. On va vous prendre un exemple extrêmement simple que tout le monde comprend. On ne demande pas beaucoup à notre boucher de le livrer chez nous. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse de la viande de qualité et qu'on soit content d'aller le voir. Donc là aussi, le premier métier d'un commerçant, c'est de faire une offre qui correspond aux attentes d'une partie de la clientèle, hein, et d'être accueillant et d'avoir envie, de donner envie de revenir, etc. Ça reste le métier de base. Et on n'a pas besoin de faire de l'Internet pour ça. Par contre, on a besoin d'être visible sur Internet. C'est-à-dire que c'est vrai que quand quelqu'un cherche de chez lui une boucherie, il faut exister dans cette logique Google. Et donc, il y a quand même ça à faire. Et ça, c'est pas obligatoirement facile pour un commerçant indépendant. Ça l'est beaucoup plus pour une enseigne, forcément, puisqu'on est staffé, parce qu'il y a des acteurs qui font ça pour 300 magasins, etc. Donc ça, c'est plus facile. À l'inverse, être très bon quand on a un seul magasin, c'est facile et faisable. Être très bon pour décliner dans 700 magasins une excellence opérationnelle, c'est très difficile. Donc, il n'y a pas des bons et des mauvais. Enfin, des mauvais. On dit small is beautiful, etc. Moi, je ne crois pas. Je pense que des gros peuvent être très bons. Le problème, c'est quelle histoire on veut raconter. Est-ce qu'on est crédible vis-à-vis de la clientèle? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on fait au quotidien, ça est en phase avec ce qu'on raconte? Ou bien est-ce qu'on raconte un truc et puis qu'en fait, quand ce qu'on vit dans les magasins, ça n'a rien à voir et donc on génère une déception? Ce qui est certain, c'est qu'on a tous le même problème. Tous les commerçants vont voir le flux diminuer tendanciellement parce que on se déplacera moins, on peut faire des choses par Internet. Donc tendanciellement, les magasins ont tous une baisse de flux qui va durer. Donc la question qu'on doit se poser tous, la même chose, c'est comment je traite bien tout client qui vient me voir, parce qu'il a fait l'effort de venir me voir. Donc on ne peut pas être en rupture, par exemple. Quand on a une rupture, le produit n'est pas là, il faut profiter... dire au client qu'on peut lui faire venir, qu'on peut le faire venir, le commander sur Internet, qu'on peut, etc. On lui dit pas, bah, repars chez toi et commande sur le site Internet. Non, c'est pas possible.
Ça existe pourtant.
Mais bien sûr, ça existe. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de personnalisation, d'expérience waouh, etc. Le premier expérience, c'est de satisfaire le besoin du client en réponse à ce qu'il vient chercher, pas d'essayer de lui en foutre plein la vue sur un truc dont il est, c'était à la marge, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut fidéliser et donc donner envie de revenir. Parce qu'en fait,
c'est plus important que d'aller chercher de nouveaux clients ?
C'est plus important parce que quand on a des clients attachés à une marque, ils dépensent plus, ils sont dans le discours de marque, ils sont fidèles. Donc forcément, aller chercher toujours de nouveaux clients, c'est la course à l'échalote, quoi. C'est un peu comme... c'est une des difficultés d'ailleurs sur Internet, d'aller dans un monde avec des centaines de sites ou des milliers de sites, c'est facile d'en créer un, techniquement, d'exister dans les moteurs de recherche, d'exister, c'est une bataille de dingue et ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui avec nos amis bailleurs et Dieu sait s'ils savent que je leur dis que le poids de l'immobilier dans le modèle économique va devoir baisser, mais c'est au moins aussi vrai sur les problématiques de référencement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner moins à un propriétaire immobilier pour donner plus encore à Google ou à Facebook, etc. Donc il ne faut pas qu'on se trompe les uns et les autres de combat. C'est comment j'arrive à avoir les bons équilibres entre mon métier qui est de vendre, enfin mon métier qui est d'acheter, de concevoir des produits, de les vendre au bon prix, de fidéliser des clients, parce qu'un client fidèle, en général, vient plus souvent et achète plus. Donc la question de beaucoup d'acteurs, c'est comment entre deux actes d'achat, je garde un lien. Qu'est-ce que je raconte comme histoire? Est-ce que je fais agir, par exemple, les équipes magasins, y compris à travers les réseaux sociaux, pour qu'un lien continue d'exister au-delà de la transaction simple? Alors, c'est pas... quand on dit ça, ça ne s'applique pas obligatoirement à des magasins alimentaires où les gens viennent trois fois par semaine. On est dans le convenient, on a besoin, donc on revient. Par contre, quand vous achetez, quand vous vendez du textile, quand vous vendez de la parfumerie, quand vous vendez des meubles, vous ne voyez pas les clients tous les jours. Donc comment vous créez la relation entre eux sans que ce soit casse-pied? C'est-à-dire qu'il faut leur raconter des choses qui les intéressent, où ils apprennent des choses et où ils ont envie de revenir vous voir parce que vous n'êtes pas juste en train d'essayer de lui fourguer un truc à moins 50%. Quoi.
Est-ce que c'est vraiment compliqué? Je m'explique. Quand on va acheter chez une marque ou une autre, c'est qu'on se reconnaît quand même dans l'image de marque, dans l'ADN des magasins, dans le discours des vendeurs. Donc c'est que déjà, on partage des choses et qu'on a envie de continuer à acheter chez cette marque avec laquelle on partage des valeurs.
C'est pas compliqué pour les plus fidèles, parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a des gens qui, de toute façon, ne se posent même pas la question. Quand ils ont tel ou tel produit à acheter, ils vont toujours au même endroit et ils continueront à faire. Sauf à ce que vraiment l'enseigne leur fasse quelque chose qui les repousse, hein, ce qui peut malheureusement arriver. Donc faut jamais. Ce qu'on dit, c'est que, et ce qu'on ne fait pas toujours bien, c'est que ces clients fidèles, ils ont besoin d'être reconnus comme fidèles. Et ils reprochent parfois qu'on ne les reconnaisse pas comme fidèles. Il y a une espèce de logique. Quand on peut être dans la relation personnelle, c'est génial. Ça, je reprends mon exemple du boucher. Quand vous allez toujours chez le même boucher, il vous reconnaît.
Mais parce que vous allez toujours dans le même magasin.
Et que c'est un petit magasin, etc. Donc, dans les grands magasins, évidemment, c'est pas possible. Donc c'est à la fois... sur cette partie clientèle, c'est à la fois pas si compliqué, mais il faut pas la décevoir. Parce que si elle est déçue, c'est fini. Parce qu'en fait, comme vous dites, elle avait confiance et vous avez cassé la confiance. Et donc, ça veut dire qu'il faut être bon dans la vente, il faut être bon dans le service après-vente aussi, des erreurs peuvent arriver. Il ne s'agit pas qu'ils ramènent le produit un jour et qu'on dise bah, tant pis pour vous. Ça, c'est la déception finale. Je croyais en cette marque et vraiment, elle raconte des histoires et elle ne fait pas du tout ça. Donc, quand j'étais en plus fidèle et que j'étais prêt à la défendre, là, pour le coup, je vais la descendre. Par contre, conquérir les autres, ceux qui sont plus volatiles, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a beaucoup de promotions, donc la notion de prix reste quand même extrêmement prégnante pour beaucoup de consommateurs. C'est quand même le moteur principal encore du comportement des consommateurs et Internet y contribue énormément. Internet, c'est avant tout un sujet de moteur de recherche avec des comparateurs de prix. Donc autant c'est compliqué de faire 10 magasins de suite pour comparer les prix, donc peu de gens le font, autant c'est extrêmement facile de le faire, encore une fois, de son canapé ou de son bureau. Et donc c'est assez compliqué... Pour ceux qui ne sont pas fidèles, c'est compliqué de créer la préférence auprès d'eux. Oui, ça reste compliqué. Parce que soit c'est un grand renfort de promotion et à la fin, ça n'a plus trop de sens. Mm-hmm. On voit bien dans le textile, quand on se dit est-ce que les soldes à telle date, etc. En réalité, il y a eu le Black Friday avant, il y a eu des ventes privées, etc. Donc la logique même du prix, en fait, c'est un sujet de fond. C'est-à-dire quelle croyance a le consommateur dans mon comportement prix ? Si je peux faire moins 50%, est-ce que c'était logique que j'achète le truc plus de 3 mois plus tôt à 50%?
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui refusent maintenant les soldes.
Aujourd'hui, de toute façon, il y a un sujet de ce sujet-là, de positionnement consommateur. C'est-à-dire que, est-ce que je suis honnête ou pas honnête? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un doute côté consommateur si je lui ai refourgué 50% plus cher. Bon, ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est un problème de modèle global, économique et sociétal. Parce qu'en fait, sociétal, parce que en fait, la logique de vendre de la promotion très chère, enfin des gros volumes, c'est de je produis beaucoup et puis je verrai bien comment je m'en sors pour fourguer le reste. Bon, ils font pas ça pour ça, parce que ce métier n'est pas si facile, parce que là, il y a des sujets de saison, de météo, c'est quand même compliqué le textile. Mais malgré tout, on doit produire moins, obligatoirement. C'est obligatoire, donc ça veut dire qu'il faut utiliser notamment... la data, l'intelligence artificielle, la manière de concevoir les produits pour faire venir des stocks de manière moins volumineuse. Ce qui réclame quand même que ces stocks viennent de plus près, parce que on a bien vu là pour le coup ça a été un gros enseignement la Covid, c'est que quand la chaîne mondiale de production ou de logistique est enrayée, on est complètement à l'arrêt. Donc ça, c'est une première question qui n'est pas facile à résoudre, parce qu'il y a des coûts de production plus élevés en Europe, etc. Et puis le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'on soit dans un modèle, sans doute, et c'est compliqué, si on doit concevoir de manière un peu plus vertueuse, il est peu probable qu'on arrive à le faire au même prix. Donc après, il y a un problème consommateur final. C'est-à-dire, est-ce que je fais ce choix-là, mais du coup, je me coupe d'une partie de mes consommateurs, et c'est pour des chaînes de grand volume, c'est compliqué, hein, parce que ça veut dire assumer des baisses de chiffre d'affaires importantes, même si le volume de marge, enfin, ou le taux de marge augmente. Bon, enfin, il faut avoir des nerfs, hein, quand même, pour voir ça tous les jours, hein, c'est pas toujours évident. Mais on est un peu... On est quand même sur un modèle de distribution, de toute façon, hein, qui s'appuie beaucoup sur les volumes, en fait. Hein, donc, je produis beaucoup pour vendre beaucoup. Si je dois vendre un peu moins, je peux pas produire de la même manière, parce qu'en fait... Sinon, ma marge unitaire n'est pas suffisante. Mais ça pose aussi quand même, je dis, un problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que un des problèmes auxquels on va être confrontés tous, et il faut en avoir conscience, c'est que dans ce modèle plus responsable, on veut utiliser moins les énergies fossiles, ce qui est totalement juste. Ça va augmenter le prix de l'énergie de manière certaine. Donc du coup, toute cette mécanique-là, elle réclame quand même de se préoccuper du sujet du pouvoir d'achat des gens. C'est facile de dire qu'il faut moins consommer ou faire plus responsable, mais c'est vrai que c'est, en termes de business model, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et nous, en termes de durabilité, on a ce sujet de responsabilité, mais on a aussi le sujet de l'emploi. C'est-à-dire que, en fait, tous ces magasins, ils sont partout en France. Donc c'est quand même l'avantage par rapport au e-commerce qui n'a pas besoin d'être partout en France. Et très clairement, et surtout, ils sont physiquement dans des centres-villes, dans des centres commerciaux, etc. Et au-delà de faire de l'écologie, on doit permettre aux gens de continuer de vivre en les payant comme salariés. Et ça, c'est une grosse responsabilité. Parce que sinon, on peut toujours inventer des modèles. Vous disiez, est-ce que les plus petits, c'est plus facile que les plus gros ? Un gros qui se dit, je veux devenir plus rentable, il peut dire, je vais fermer 30% de mes magasins. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est acceptable sociétalement ?
C'est économiquement moyen pour le pays, en tout cas.
Et puis même pour tout le monde, même probablement pour la marque. C'est-à-dire que c'est extrêmement... Enfin, aujourd'hui, on a vite fait de montrer du doigt la fermeture de tel ou tel magasin. Personne ne se préoccupe de savoir... S'il est fermé parce que la marque est une marque horrible ou bien parce que c'était plus supportable économiquement, soit parce qu'il n'y a plus assez de clients, soit parce que les loyers sont trop chers. Ça y est, je l'ai dit.
Justement, on pourrait parler de ça pendant des heures. Le temps nous manque un peu, donc je voudrais juste vous parler de deux points d'actualité. Celui des loyers, puisque je crois qu'ils vont augmenter. je vois Emmanuel Le Roc grogner. Et celui, allez, parce qu'une bonne nouvelle, c'est bien aussi, du fait que les aides vont être accordées pour les fermetures de 2021. On commence par quoi ?
On va commencer par les aides. La bonne nouvelle, et je pense que c'était très bien... je pense que c'est un hasard, mais c'était quand même très très bien que ces aides soient la confirmation de la communauté européenne sur cet accord d'aide qu'on discute depuis février, en fait, parce que c'est ça. Et c'est Bruxelles qui a mis énormément de temps à donner son accord à Paris. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les décrets d'application, donc il faut encore être attentif et regarder un peu comment ça va marcher. Mais enfin, faut quand même se satisfaire de la position de l'État. On parle de 700 millions d'euros, hein, donc on peut grogner tous où on est, mais il faut absolument être satisfait de ça. Et je ne crois pas que ça puisse pas permettre de trouver des solutions, parce que je fais confiance aux acteurs des deux côtés pour y arriver. En ce qui concerne l'ILC, puisqu'en fait c'est de ça dont on parle, en fait les loyers, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui suivez le commerce, ils sont régis par un indice qui s'appelle l'indice des loyers commerciaux, qui s'appelle l'ILC. Et effectivement, il a été annoncé... en gros, les baux qui seront indexés au début de janvier seront indexés à 2,6% si on ne fait rien. Et moi, ça fait des mois que je préviens l'État que cette hausse, elle est inéluctable, en fait, hein, parce que là, c'est une mécanique mathématique, en fait. Hein. On peut dire qu'il y a des surprises, mais enfin, l'INSEE, ils savent calculer et il n'y a pas de surprise, en fait, puisque... On compare des moments où il n'y avait pas d'activité à un moment où il y a une activité, donc c'est juste mathématique. Et puis surtout, ça avait commencé avant, puisque l'ILC, qui est un indice qui a été créé en 2008 à notre demande, Procos, parce qu'on considérait que les indices d'avant n'étaient pas du tout adaptés au commerce, et du coup, on en était satisfait et c'était une bonne discussion. Ça a bien fonctionné pendant des années. Et puis en 2016... Bon, sans rentrer dans le détail, il y a eu un changement de calcul de l'INSEE qui a fait qu'on est déjà passé à 2,5% à ce moment-là, donc on a alerté à ce moment-là. Et aujourd'hui, le moment, pour être court, il faut se préoccuper de deux choses. La première chose, on demande, nous, à l'État de faire en sorte qu'on n'indexe pas en 2022 parce que indexer les loyers dans une période de crise comme ça, c'est vraiment... franchement, je pense que ce serait extrêmement mal vécu par les commerçants et puis... les bailleurs ne sont pas pénalisés dans la mesure où il n'y a pas de coût à mettre en face en réalité. Donc, puisque, notamment, on sait que les charges sont refacturées par ailleurs, par exemple. Deuxièmement, une période d'un an pour se donner le temps de travailler ensemble. Et puis ensuite, essayer de co-construire ensemble avec l'État, les bailleurs et nous, les enseignes ou les commerçants, un indice qui soit en phase avec l'activité du commerce, parce que, enfin des magasins. Parce qu'en fait, forcément, le commerce change, il est de plus en plus omnicanal. De manière logique, il y a moins de chiffre d'affaires fait dans les magasins. Donc du coup, aujourd'hui, on a un indice qui ne fonctionne pas par rapport à ça. Donc on a, en même temps que des chiffres d'affaires tendanciellement baissent, des loyers qui continuent d'augmenter. Donc c'est pas sain. C'est pas sain pour personne, c'est pas sain pour la filière. Et donc j'ai confiance sur le fait que sous l'impulsion de l'État, on ait tous envie de se mettre autour de la table pour trouver une solution qui fonctionne. Et elle n'est pas facile à trouver. Hein, donc, mais en tout cas, il faut. C'est un sujet de limitation de risque. Quoi. Il faut trouver un système qui fasse que les loyers ne puissent pas soit trop augmenter, soit trop baisser aussi, peut-être, hein, côté bailleur. Ou alors on abandonne la notion d'indexation et puis c'est tout, on se dit que ça n'a pas de sens, ou alors on trouve un système plus adapté, parce que sinon on va paupériser des magasins et je pense que c'est vraiment pas l'intérêt ni des bailleurs ni des commerçants.
Et tout le monde a confiance en vous, Emmanuel Leroc, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le délégué général de Procos et j'en profite également pour rappeler qu'on vous retrouve tous les lundis sur Radio Immo avec votre chronique Parlons Commerce et je suis sûre que vous nous en reparlerez très bientôt de cette ILC. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci beaucoup à vous.
Le SIEC, le salon du retail et de l'immobilier commercial, sur la thématique « Continuons d'écrire l'avenir du commerce ensemble » les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo.